que le thème de mon message, c'est accueillir, c'est rejoindre les gens. Et on est dans tout ce mois dans une thématique sur la notion d'accueil, de prendre en compte les gens, prendre en compte les gens dans leurs besoins et d'être vraiment là une main d'association avec eux pour les amener à rencontrer Christ, à s'appuyer sur lui et à grandir en tant que disciple. Donc c'est vraiment une super illustration que j'avais ce matin pour démarrer. Michel nous a rappelé justement il y a deux semaines que dans le premier message de cette série, qu'accueillir c'est donner de l'importance à l'autre. Et c'est bien ce que Jésus a fait en donnant sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Il a donné de l'importance, il a démontré la valeur que nous avions à ses yeux et son désir que nous puissions être avec lui, être ses enfants. Le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme, afin que nous, fils de l'homme, nous puissions devenir des fils et des filles de Dieu. Amen. Jésus a fait passer nos intérêts avant les siens, en donnant sa vie à la croix. Et c'est dans tout cet état d'esprit que je veux aborder ce matin avec vous, cette notion de rejoindre les gens pour pouvoir leur communiquer quelque chose. Notre désir, c'est pas juste d'accueillir les gens pour qu'on se sente bien dans notre petit club entre nous. Mais c'est parce que nous croyons qu'ils ont besoin de recevoir un message qui a la capacité de transformer, de bouleverser leur vie et de faire d'eux des fils et des filles du roi des rois. Notre désir, c'est que les gens puissent rencontrer Jésus, saisir la grâce de Jésus et d'être réconciliés avec le ciel. Et dans le livre des Actes, Jésus nous a laissé une mission à nous, ses disciples, un appel, celui est d'être ses témoins. Acte 1, verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Alors, on ne va pas traiter ce matin de comment l'Esprit nous équipe pour être ses témoins. Je vais laisser cette partie à Michel qui avait à cœur d'aborder dans cette notion d'accueil aussi comment accueillir l'Esprit et sa vie en nous. Mais ce matin, j'ai juste envie qu'on fixe nos regards, qu'on focalise sur cet appel à être des témoins. Sur ce mandat, cette mission que Dieu nous confie à chacun. Le cœur de Dieu et son désir est que nous puissions être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire sur l'ensemble du globe. Et Strasbourg fait partie de l'ensemble du globe. Strasbourg est dans ce globe. Comment impacter, comment rejoindre les gens de cette ville pour que nous puissions être les témoins de ce que Jésus a fait dans nos vies. Le cœur de Dieu désire que l'annonce de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus soit annoncée afin que les hommes et les femmes qui nous entourent saisissent cette occasion, cette opportunité qui leur est offerte par le ciel d'être pardonnés de leurs fautes, pardonnés de leurs erreurs et qu'ils puissent être en paix et réconciliés avec Dieu. Et pour cela, Jésus a choisi chacun d'entre nous pour être partenaire dans ce grand plan avec lui. Alors ça, c'est quelque chose que généralement les chrétiens savent. On connaît le grand ordre de mission d'aller faire des disciples. On sait le quoi faire. Le problème souvent, c'est comment faire. Comment remplir ce mandat, cette mission que Dieu nous a donnée. On va regarder ensemble la signification du terme témoin. Un témoin, c'est une personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut le certifier. Comme par exemple le témoin d'un accident, j'ai vu que c'est la voiture bleue qui a percuté la voiture rouge et je peux en attester ça sur le constat amiable. Pardon. C'est quelqu'un qui va attester de l'exactitude d'un acte ou d'une déclaration. Par exemple, un acte de mariage. Le témoin dit, j'atteste que monsieur Untel s'est marié avec madame Untel le 10 janvier 2020. Je suis témoin qu'ils ont décidé de s'engager l'un pour l'autre. Le terme grec traduit par témoin en français, c'est le terme martus, qui signifie être un témoin dans un sens légal, mais aussi dans un sens historique, quelqu'un qui est spectateur de quelque chose qui s'est passé, mais aussi un témoin dans le sens éthique. C'est quelqu'un qui, en suivant l'exemple de Jésus, a prouvé la force et l'authenticité de sa confiance en Christ en allant, même pour certains, supporter une mort violente et devenir des martyrs. Notre mot martyr en français découle de ce mot martus, être des témoins. Alors bien sûr, on n'est pas appelé à tous être des martyrs et à donner jusqu'à notre vie, mais ce qu'on voit, c'est que ces gens qui ont rencontré Jésus, qui ont connecté avec Jésus, ont vécu quelque chose de si grand et si puissant que ça a impacté, que ça a bouleversé toute leur façon de vivre, leur façon de penser et leur façon de cheminer au quotidien. Le message et l'œuvre de Jésus ont tellement été puissants dans leur vie que toute leur vie en est impactée, toute leur vie en est imprégnée, toute leur vie en est transformée. Et c'est donc sur cette base-là ce matin que nous allons voir comment être des témoins de Christ au sein de notre génération. Nous sommes appelés à être des témoins par notre bouche, on a vu, on a entendu des choses, mais aussi être des témoins de Christ par nos vies. Notre vie entière doit être un témoignage qui rejoint les gens au sein de leur réalité et les conduit à vivre et à expérimenter la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et mon premier point ce matin, c'est rejoindre les gens, c'est d'abord s'intéresser à eux. Éphésiens 4, 29 nous dit qu'aucune parole malsaine ne sort de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. De bonnes paroles en fonction des besoins. Paul, ici, encourage les croyants à communiquer des paroles qui répondent à des besoins identifiés chez les gens. Des paroles qui vont transmettre une faveur de Dieu qui va faire grandir ceux qui les entendent. C'est ce qu'on voit dans le terme édifier, les faire grandir. Mais la question, c'est que pour connaître les besoins des gens, il faut leur accorder de l'attention. Je le dis souvent, mais Dieu nous a donné deux oreilles et une seule bouche. C'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais bien souvent, enflammés par notre pseudo-connaissance des choses, on cherche à répondre aux gens sans les avoir laissés terminer de parler. Ma femme m'a encore dit ça ce matin dans la voiture. Et ce n'est pas une blague. Nous pensons tout savoir ce que les gens ont besoin. Et parfois, on veut leur apporter toutes sortes de solutions avant même d'avoir écouté leurs problèmes jusqu'au bout. C'est exactement comme si ce matin, j'allais chez le médecin parce que j'ai une gastro, que le médecin me dit bonjour et qu'il me donne un traitement pour la grippe. Le traitement est peut-être bon, mais pas dans ce que je suis en train de vivre. Pour que le médecin puisse déterminer ce que j'ai, il a besoin de prendre du temps avec moi et de m'ausculter. C'est-à-dire de m'accorder de l'attention et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Il va même me poser des questions. Mais on a besoin de prendre du temps et d'accorder du temps pour comprendre et apporter une solution. Vous savez, bien souvent, les gens autour de nous n'ont pas besoin de connaître les 5 clés qui vont ouvrir leur destinée. Ce que les gens ont besoin d'entendre, ce que les gens ont besoin de vivre, c'est d'être écoutés dans ce qu'ils traversent au sein de leur réalité. Amen. Amen. Nous sommes dans une ère, vous savez, où on communique beaucoup. On n'a jamais eu autant de moyens de communication, on n'a jamais eu autant d'amis virtuels sur Facebook, sur Instagram et tout le reste. Mais ce qu'on voit, c'est que beaucoup de gens ne se sont jamais sentis aussi seuls et isolés. Il y a beaucoup de façades, mais il y a peu de concret. Vous savez, les gens sont des êtres de relations qui ont été créés à l'image d'un Dieu relationnel et qui ont besoin de connexion. C'est un besoin pour l'être humain de ne pas être seul, mais d'être en connexion avec les autres. Vous savez, tout notre savoir ne sert à rien si nous ne cherchons pas à nous intéresser aux gens et à les rejoindre dans ce qu'ils sont. John Maxwell, expert en leadership, dira la chose suivante. Cela peut sembler étrange, mais c'est un fait réel. Les gens ne se soucient pas de ce que vous savez jusqu'à ce qu'ils sachent à quel point vous vous souciez d'eux. Les gens ne se soucient pas de ce que vous savez jusqu'à ce qu'ils sachent à quel point ils ont de l'importance à vos yeux. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça prend un effort. Écouter des gens, c'est fatigant. Et c'est vrai que ça peut nous pomper de l'énergie, de prendre le temps, de l'attention pour écouter quel est le besoin, etc. Mais ça peut être nécessaire pour la, ça peut être salutaire, pardon, pour la personne. Pour nous connecter aux gens, on en a besoin de trouver un terrain d'entente. On a besoin de trouver un point de connexion avec eux. Philippiens 2, 4 à 5, Paul nous dit que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. John Maxwell dirait encore, difficile de trouver des points communs avec d'autres si l'on a passé sa vie à se regarder dans une glace. On a besoin de se détourner de notre nombril et de commencer à fixer et voir ce que les autres sont en train de vivre, ce qu'ils sont en train de traverser. Bien souvent, on aborde les gens quand on est disciple de Jésus et on a envie de les bombarder à coups de versets. On a envie de les bombarder à coups de la Bible. Le problème, c'est que la Bible, c'est pas ça le point commun que nous avons avec les gens qui nous entourent. Vous savez qu'en France, sur 65 millions de Français, environ 40 millions de personnes n'ont aucun contact avec la religion et 80% d'entre eux ne possèdent pas la Bible. Donc le point commun qu'on a avec les gens, ce n'est pas nos versets. Le point commun que nous avons avec les gens, c'est ce que nous vivons au quotidien. Ça peut être nos besoins, ça peut être nos blessures, ça peut être nos intérêts. C'est ça qui va nous faire rejoindre les gens. Et on est invité à parler aux gens de sujets qui les intéressent, parler à nos voisins, à nos amis, des sujets qui les intéressent en leur montrant ensuite ce que la Bible en dit. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir commencer à attirer leur attention, mais aussi peut-être démolir des préjugés. Plein de gens autour de nous disent « Qu'est-ce que tu en as encore à faire avec ce vieux livre qui a plus de 2000 ans ?» Comment ça peut me rejoindre ? Sauf que quand on leur montre que dans la Bible, il y a des gens qui ont subi l'oppression, qui ont subi des mensonges, qui ont subi des calomnies, et ils voient, on peut leur montrer au travers de la Bible comment les gens ont expérimenté le secours de Dieu, comment par certaines actions, attitudes, en s'appuyant sur Dieu, ils ont pu s'en sortir. On est en train de leur démontrer juste par là que la Bible n'est pas si dépassée que ça et qu'elle a des choses à dire pour ce qu'ils sont en train de vivre au quotidien dans leur réalité. Donc on peut démonter des préjugés, mais on peut aussi susciter du coup un intérêt pour la Bible qui n'existait pas avant. On peut se poser les questions aujourd'hui. Quelles sont les peurs ? Quelles sont les craintes ? Quels sont les besoins ? Quels sont les défis des gens qui sont autour de nous ? Où est-ce que la ville a mal ? Où est-ce que Strasbourg saigne ? C'est des questions comme ça qu'on doit se poser en tant que chrétien. Comment je peux apporter une réponse ? J'ai besoin de me poser ces questions. Les gens qui vivent autour de moi, qu'est-ce qu'ils vivent ? Vous savez, les Français, par exemple, sont des gens qui sont angoissés et stressés. Pas vous, hein ? Vous savez que la France détient le record mondial de consommation de psychotropes. On utilise 3 à 4 fois plus de psychotropes que le reste de nos partenaires européens. Donc un de nos défis pour nous est de présenter ce Jésus qui est là pour sécuriser et tranquilliser. Et aussi celui qui libère des addictions, qui libère de toutes sortes de dépendances. Vous savez, Jésus attirait les foules parce qu'il répondait aux besoins physiques, aux besoins affectifs, aux besoins spirituels, relationnels et financiers. À un aveugle, il a posé la question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» On voit que Jésus s'est focalisé sur le besoin de cet homme. Jésus utilisait les besoins des gens comme un pont pour attirer l'attention des gens sur son message libérateur et pointer les vrais problèmes de l'humanité. Alors peut-être il y en a qui seraient en train de me dire « Mais là, tu es en train de nous présenter un évangile rose-bonbon, un évangile supermarché fast-food où on ne fait que répondre qu'aux besoins des gens. » Et c'est intéressant de regarder comment Dieu se révèle lui-même dans la Bible. Quand les gens lui ont demandé « Mais quel est ton nom ?» Dieu a répondu en se révélant lui-même selon leurs besoins précis. À ceux qui avaient besoin d'un miracle, Dieu s'est révélé comme Jéhovah Jiré, je suis celui qui pourvoit. À ceux qui avaient besoin de réconfort, Dieu s'est présenté comme Jéhovah Shalom, je suis ta paix. À ceux qui avaient besoin de salut, Dieu s'est révélé comme Jéhovah Tsikenu, je suis ta justice. Les exemples sont nombreux. Dieu nous rencontre là où nous sommes, à l'endroit de notre besoin. Pasteur Rick Warren de l'église de Saddleback aux États-Unis, en Californie, a écrit la chose suivante dans son livre « L'église, une passion, une vision ». Il dit « Qui sommes-nous pour juger si une personne s'intéresse à Christ pour une bonne ou pour une mauvaise raison ?» La raison pour laquelle les gens viennent à Jésus n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est qu'ils viennent. Ensuite, il peut agir sur leurs motifs, sur leurs valeurs et leurs priorités une fois qu'ils entrent dans sa présence. Soyons honnêtes, 5 minutes ce matin tous ensemble. Qui est venu ici dans cette pièce à Jésus, libre et dénué de tout sentiment égoïste, la première fois où vous êtes venu à Christ ? Nous sommes tous venus à lui parce que nous avons ressenti un besoin auquel il pouvait répondre. Amen ? Vous savez, le slogan de l'armée du salut, soupe, savon, salut. C'est quelque chose de fort. William Booth, le fondateur de l'armée du salut, se refusait d'annoncer le message de l'évangile à quelqu'un qui avait le ventre vide. Et il se refusait d'annoncer l'évangile sans rendre un petit peu de dignité à la personne, en lui permettant de pouvoir se laver, de pouvoir être propre sur lui-même. Lorsque l'on rejoint les gens dans ce qu'ils vivent, nous gagnons le droit de leur annoncer la vérité. N'oublions pas mes amis, que l'évangile ne s'impose pas, l'évangile se propose et s'expose. John Maxwell dira encore, être connecté, c'est la capacité de s'identifier aux autres et de communiquer avec eux d'une façon qui vous permette de les influencer. Si nous voulons que l'évangile fasse la différence dans la vie des gens, intéressons-nous à eux. Deuxième point ce matin, rejoindre les gens, c'est parler un langage qu'ils comprennent. On va faire trois lectures, vous n'allez pas comprendre au départ pourquoi, mais je vous explique ensuite. Philippiens 2, 6 à 7 nous dit « Lui qui était de condition divine, on parle de Jésus, il n'a pas regardé de son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. » Jean 1, 14 nous dit « Et la parole, toujours en parlant de Jésus, s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Et Jean 1, 18 « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et celui qui l'a fait connaître. » Je vous explique ensuite ces passages. Je vais demander à Michel et à Anne de s'approcher et ils vont prendre des nouvelles l'un de l'autre.
Guten Morgen, Anne.
Bonjour, Michou.
Ja, wir müssen uns sehen heute.
Komm, ihr was?
Wir haben viel Arbeit noch die Woche.
Warum machst du das nicht?
Alors, je suis convaincu qu'ils étaient vraiment sincères dans ce qui s'est passé. Je crois vraiment que l'un et l'autre essayaient de prendre des nouvelles de l'autre en face. Alors, j'aimerais juste avoir la traduction même de ce que vous avez dit, histoire que ça serait frustrant, hein, n'est-ce pas?
Alors, c'était de l'Alsacien. Bonjour, Anne. On a beaucoup de travail cette semaine. Il faut qu'on se pose un tout petit peu.
T'es gentil, toi. moi, j'ai dit bonjour, Michel. Comment ça va? Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Et j'allais lui dire, ça fait plaisir de te voir.
Alors, un Alsacien et une Provençale. Donc, les deux étaient très bien intentionnés dans leur désir de prendre des nouvelles, de s'intéresser, puis de dire qu'il y a du boulot. Michel, merci de nous le rappeler. Pourtant, on a un problème. On a un problème, c'est que les deux ne peuvent pas se comprendre parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Et c'est bien souvent ce que nous faisons. Nous nous adressons aux gens avec un vocabulaire incompréhensible pour ceux qui nous entourent. Alors, je vais caricaturer deux minutes, mais vous allez voir que ce n'est pas très loin de la vérité. Souvent, quand on parle de Dieu aux gens qui nous entourent, on va faire à peu près ceci. Grâce à l'incarnation, la crucifixion et la résurrection de notre Sauveur, nous avons accès à la rédemption et à la justification par la conversion, nous conduisant à une vie de sanctification en vue de la glorification à venir. Alors, non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, parce que les gens ne comprennent pas, en vrai. C'est un enchaînement de mots profondément théologiques, mais profondément incompréhensible de ceux qui nous entourent. Le but de communiquer est de transmettre quelque chose à quelqu'un qu'il puisse comprendre. J'ai choisi les versets qu'on a lus juste avant pour la raison suivante. Dieu s'est fait homme pour nous rejoindre dans notre réalité et de nous permettre de contempler quel Dieu merveilleux il est. Personne, normalement, ne peut voir Dieu et vivre. Lorsque Moïse a demandé à Dieu de pouvoir le voir, Dieu lui a répondu que personne ne pouvait voir sa gloire et vivre. Ça met en évidence le fossé qu'il y a entre la divinité et l'humanité. On ne peut pas, en tant qu'homme, supporter la réalité de qui Dieu est. Voilà pourquoi Dieu s'est abaissé et s'est fait homme. Jésus est celui qui nous permet de nous révéler qui Dieu est. Lorsque nous voyons Jésus, nous voyons Dieu, son caractère, nous voyons ce qu'il désire, nous voyons ce qu'il fait. Jésus nous rend Dieu accessible. C'est aussi pourquoi Dieu a décidé de parler à chacun d'entre nous au travers d'un livre, la Bible, en inspirant des humains. Et cela toujours dans ce but d'être accessible et de pouvoir nous communiquer et transmettre un message. Il a choisi de nous parler avec des mots. Il a choisi de nous parler avec des phrases, avec des images, afin qu'on puisse le comprendre. En employant des expressions et des images que nous pouvons saisir, Dieu révèle son désir de se mettre à notre niveau pour nous aider à grandir, à cheminer avec lui et transformer nos vies. On trouve souvent dans la Bible des expressions comme la bouche, les oreilles, les pieds, les mains de Dieu. Dieu n'est pas un être fait de corps physique comme nous, mais il nous donne ces expressions-là dans la Bible pour nous aider à saisir qu'il est venu nous parler, qu'il nous entend et qu'il veut agir dans nos vies. Quand la Bible dit que les arbres tapent dans les mains en l'honneur de l'Éternel, dites-moi que vous ne croyez pas que les arbres ont des mains littérales et qu'ils sont en train de taper. C'est une image pour nous dire que la création loue son créateur. Et si vous croyez vraiment que les arbres ont des mains, je vous invite à prendre un rendez-vous avec nous cette semaine. On prendra du temps et peut-être quelques médecins à côté pour nous aider. Je reviens à mon message, je me suis perdu. C'est dans un but en fait pédagogique que Dieu s'adresse à nous de cette manière. Je vais citer Jean Calvin. Jean Calvin, c'est un théologien français, un des artisans de la réforme protestante, qui a dit la chose suivante. Alors il est un petit peu piquant, Jean Calvin. Il dit « Car qui est la personne au bien petit esprit qui ne comprend pas qu'en nous parlant, Dieu bégaye, si l'on peut dire, à la façon des nourrices avec les bébés ?» Quand on veut apprendre un enfant à parler, on ne peut pas commencer à lui dire « Je ne pense pas, mon ami, que tu n'as pas compris ce que tu dois faire avec ce biberon. » Si on parle comme ça avec un bébé, vous allez galérer. Par contre, on est obligé un petit peu de se mettre à son niveau et puis de commencer avec papa, maman, des choses qu'il peut répéter et commencer à apprendre. On a besoin de se mettre à son niveau. Lorsque Jésus parlait en parabole, il utilisait par exemple des comparaisons avec l'agriculture parce que c'était le quotidien des gens. C'était le quotidien de ses contemporains. Il enseignait des vérités profondes de manière simple. Et c'est ça le but de la théologie. C'est de prendre des choses qui peuvent sembler compliquées et de les rendre accessibles. Mais souvent, les théologiens font l'inverse. Ils prennent un concept simple et ils mettent tellement de mots dessus qu'on ne comprend plus rien à la fin. On appelle ça tout simplement de la contextualisation. David Helm, qui a écrit un bouquin sur la prédication textuelle, dit la chose suivante. En termes simples, la contextualisation dans la prédication communique le message de l'évangile dans un langage clair pour le public ou adapté à son contexte culturel. Cette façon de concevoir la prédication met l'accent sur le public. Autrement dit, la contextualisation se préoccupe de nous et de notre époque. Voilà pourquoi il nous faut annoncer l'évangile et le proclamer de manière claire, avec des mots simples afin de rejoindre toutes les personnes. Vous savez, on vit dans une culture non chrétienne. Si vous interrogez les gens autour de vous à propos de Pâques ou à propos de Noël, les gens vont pas beaucoup vous parler de Jésus, ils vont plutôt vous parler des œufs et du Père Noël. Et c'est une réalité. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui ont une culture, une tradition chrétienne et qui connaissent quelques bases. Mais aujourd'hui, si on interroge les lambda autour de nous, les gens ne savent plus ce que ces choses veulent dire. Nous devons veiller à ne pas parler une langue étrangère à une culture non chrétienne. Nous sommes dans un monde post-chrétien où le christianisme est pour beaucoup dépassé. Alors faisons attention à notre jargon évangélique ou ce qu'on pourrait dire notre patois, pas provençal, mais le patois de Canaan. On parle un langage et il n'y a que nous qui nous comprenons. Et lorsqu'on emploie un mot technique, il est important de le définir. Par exemple, le mot rédemption, on sait que c'est le rachat, mais c'est souvent synonyme de délivrance ou de libération. Ça, c'est des mots que les gens comprennent. Rédemption, ils ne comprennent pas. Si on prend le mot repentance, dans la tête des gens, souvent, la repentance, c'est de la pénitence. Il faut que je me fasse du mal. Alors que la repentance nous parle simplement d'un changement de mentalité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se produit en moi qui fait que mes actions derrière changent. Le péché signifie manquer le but, manquer la cible ou encore transgresser les lois de Dieu. Le mot péché, il est tellement utilisé qu'il y a des gens, ça ne veut plus rien dire pour eux. Mais si on dit aux gens, tu es passé à côté de ce que Dieu voulait pour ta vie, là, on les rejoint. Calvin dira encore, il nous faut exposer en termes plus clairs les choses qui sont exposées de façon obscure dans l'Écriture, par des explications exprimant fidèlement la vérité de l'Écriture. Quand vous allez employer des mots clairs, vous n'allez pas être en train de diluer le message. Simplement, vous allez le rendre explicite pour les gens qui sont autour de vous. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église, nous voulons adapter aussi nos célébrations du dimanche, de chaque dimanche, pour que chacun puisse être rejoint, pour que notre génération puisse être rejointe. Que ce soit au travers des messages ou de la musique, nous désirons que cela soit contemporain, afin que nous soyons une Église pour aujourd'hui et pas l'Église d'avant-hier. Combien de fois je suis entré dans des églises et où j'avais l'impression d'être monté dans une capsule et que cette capsule m'a fait remonter le temps et j'arrive là et les gens ne ressemblent pas à la société d'aujourd'hui. Les femmes sont habillées comme au Moyen-Âge, les hommes ils sont habillés avec des... J'exagère. Mais on peut avoir cette impression parfois de remonter le temps quand on met les pieds dans une église. Mais l'église, elle est appelée à être l'église pour aujourd'hui. Parce que c'est notre génération qui a besoin de Christ. C'est notre génération avec des vies complètement dissolues, des choses que nos anciens et que nos aînés n'ont jamais imaginées. Aujourd'hui, on le vit. Et on croit que l'évangile est encore une réponse pour ces défis-là. On n'est pas là en train de se dire, oh là là, je pensais pas que ça allait arriver ça, je sais pas ce qu'on peut faire. Non, Jésus est la réponse pour aujourd'hui. Mais je suis content pour les deux, trois qui le croient. Jésus est la réponse encore pour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Vous savez, l'Église n'est pas un club pour les saints, elle est un hôpital pour les malades. L'Église n'est pas là pour nous faire plaisir et être à l'image de ce qu'on a envie que ce soit une Église, mais elle est là pour faire plaisir à Dieu et à répondre à son mandat. C'est pour cette époque, c'est pour cette ville, c'est pour ce pays que Dieu nous a appelés ensemble à être ses témoins, en rendant accessible son message. Et on arrive à mon dernier point ce matin, rejoindre les gens, c'est vivre le message. Un Pierre de 12 nous dit « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Au-delà des mots, vous savez, ce qui parle le plus, ce sont les actes. Les gens sont fatigués des promesses électorales. Ils veulent voir les actes qui suivent les paroles. Ils ont besoin d'avoir confiance en des gens fiables. Un chrétien déclare ce qu'il a fait et fait ce qu'il a dit. Pierre explique que nos actions peuvent susciter l'interrogation. Et si elles peuvent être dans un premier temps un sujet de moquerie, elles n'en laissent pas moins les gens indifférents. Est-ce que ma vie crée encore une différence? Est-ce que j'interpelle au travers de ce que je peux vivre ou des décisions que je prends? Mais c'est cette attitude a la capacité, ces choses que l'on peut vivre, ce témoignage vivant, ça a la capacité d'être un signe et un témoignage vivant de l'œuvre de Dieu en nous. On l'a dit en début de message, l'œuvre de Jésus est tellement puissante que les priorités de la vie du chrétien en sont transformées, en sont changées. Cela se traduit dans tous les domaines de notre vie et cela appelle à questionner notre société. Vous savez, le plus beau témoignage que nous pouvons laisser à notre société hyper individualiste et auto-centrée, c'est celui de la recherche du bien-être des autres, avoir un cœur pour les autres. C'est le secret de l'influence. On ne gagne pas l'influence par le pouvoir ou par le contrôle. Le pouvoir et le contrôle ne changent jamais les cœurs. Mais nos actes désintéressés, nos actes authentiques envers ceux qui nous entourent et qui ne partagent pas forcément nos convictions, ça a la capacité d'attirer les gens vers nous et de les interpeller par qu'ils soient interpellés par notre sens du service et de notre amour. Et quand les gens voient cet amour manifesté, voient ce désir d'être à leur service, l'influence et la confiance vont nous être données. On n'aura pas besoin d'aller la chercher et de la forcer. Les gens vont accorder leur confiance. Ce n'est pas nous qui l'imposons aux autres. Et c'est important de ça quand on parle en termes d'amitié. Parfois, les chrétiens peuvent dire « il faut que je sois ami avec des gens pour les amener à Jésus ». Mais en fait, non. Il faut être ami avec des gens pour être ami avec des gens. Et parce que tu es ami avec ces gens-là, tu vas prier pour que Jésus les rencontre. Mais on ne fait pas un pari en disant « je vais être ami pour obtenir quelque chose ». Je vais être ami, point. Les statistiques nous disent que dans les campagnes de l'évangéliste Luis Palao, 80% des gens qui venaient dans ces campagnes et qui donnaient leur vie à Christ sont venus parce qu'un ami les a invités. Seulement 2% sont venus parce qu'on leur a donné un traité dans la rue au pif. 80% à cause de l'amitié. Parce que les gens ont déversé leur cœur dans quelqu'un, ils ont pris du temps avec, il y a une confiance qui s'installe. Voilà combien de mes collègues, quand j'étais encore dans la police, sont venus à l'église, ils me disaient « je suis venu parce qu'on te connaît ». Et il y en a une fois, il m'a dit, alors il n'est pas venu à Christ, il n'a pas donné sa vie, mais il m'a dit « avant de te connaître, je pensais que les évangéliques c'était une secte ». C'est fort quand même, « avant de te connaître ». C'est-à-dire qu'une fois que les gens te voient évoluer, ils se disent, il y a quelque chose de différent, et du coup la confiance s'installe, et ils viennent. Et il m'a dit une fois, si je devais être chrétien, c'est dans ton église que je viendrais. Si je devais être chrétien. Donc il n'a pas donné forcément son cœur à Dieu. Mais en tout cas, il y a la confiance qui était là, il s'est dit, c'est pas des fous. Et c'est important. C'est vraiment important de penser à ça. Nous sommes des véritables témoins lorsque l'indifférence fait place à la bienveillance. Lorsque le collectif est plus important que l'individualisme. Lorsque nous sommes prêts à moins de confort pour que l'autre obtienne le réconfort. Et je crois que ça, c'est important, cette notion de confort. Avoir moins de confort pour nous, ça signifie aussi s'exposer. Vous savez, si le message de la bonne nouvelle de Jésus est parfait, nous, on ne l'est pas. Et il est important de ne pas vendre du rêve aux gens, mais de leur parler avec vérité, mais aussi avec vulnérabilité. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres que nous avons un témoignage à leur communiquer. C'est bien parce que la grâce de Jésus est meilleure. Dieu a investi sa vie parfaite dans nos vies imparfaites pour pouvoir nous transformer. Et cela, c'est un processus tout au long de notre vie. Vous savez, en tant que pasteur, j'aime partager mes erreurs, j'aime partager mes doutes et mes échecs, et de montrer comment Dieu m'a aidé à surmonter ces choses-là, plutôt que de parler de mes réussites. Je pourrais raconter comment on était en Pologne et qu'on priait pour les gens, puis qu'il y a 150 personnes dans la rue en un message de 3 minutes qui donnaient leur vie à Jésus, mais ça ne va pas rejoindre les gens. Par contre, de raconter comment, il y a 7-8 ans maintenant en arrière, avec mon épouse, on a failli divorcer, et comment on a dû travailler sur nous-mêmes et se rendre vulnérable auprès de notre pasteur qui était avec nous, qui nous a accompagnés, qui nous a aidés à nous restaurer, à travailler sur notre mariage et aujourd'hui pouvoir aborder des couples, ça fait toute la différence. Pourquoi ? Parce que les gens se disent « il y a de l'espoir pour moi ». Si lui s'en est sorti grâce à Jésus, ça veut dire que moi aussi, je peux m'en sortir grâce à Jésus. Prêchons pas nos forces, parlons de nos faiblesses et comment la grâce et la puissance de Dieu peut se manifester au sein de nos difficultés. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Voilà ce que l'évangile fait dans une vie. Elle transforme des pécheurs. Elle change nos cœurs, elle change nos vies pour un espoir, pour une espérance, pour quelque chose de plus grand. Votre vulnérabilité permet aux gens de se sentir accompagnés, de se sentir rejoints et ça suscite l'espoir en eux. Vous savez, en tant que chrétiens, nous sommes des gens normaux avec les luttes comme tout le monde et des défis. Et nous avons besoin en tant que chrétiens de nous appuyer sur Jésus chaque jour. Chaque jour dépendre de sa grâce pour pouvoir être pardonné, transformé. C'est pas j'ai donné ma vie en 1998 et maintenant je suis un chrétien parfait. Non, on a besoin chaque jour de dire Seigneur j'ai besoin de ta grâce parce que par moi-même je vais vite à déraper de nouveau. J'ai besoin que ta grâce qui pardonne et qui transforme soit en action dans ma vie. J'ai besoin de dire Seigneur j'ai besoin de toi, je suis spirituellement pauvre. Et lorsqu'on est dans cet état d'esprit, alors la vie de Dieu se manifeste en nous. Quand on est sûr de nous-mêmes, on s'écrase. Quand on est sûr de lui, on s'élève. Parce que Jésus est plus puissant. Nous sommes invités à déclarer ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore dans nos vies. C'est ça, être un témoin. L'évangile n'est pas à propos de nous, elle est à propos de lui. Il est ce Dieu merveilleux qui s'est abaissé pour toi et pour moi, afin que nous puissions être relevés. Si nous voulons voir des vies transformées, si nous voulons voir notre société impactée, il est temps de faire tomber les masques, de cesser de vouloir paraître afin qu'ils puissent se manifester. J'aimerais ce matin, si c'est votre cœur, faire un appel tout simple. Je crois que Dieu cherche des témoins qui vont chercher à connecter et à rejoindre avec leur génération et de les conduire à celui qui nous appelle à marcher et à dépendre de lui, à placer notre confiance en lui. Jésus a donné sa vie pour se constituer un peuple qui l'aime et qui vit pour lui. Et vraiment, si c'est votre cas, alors qu'on ferme les yeux ce matin, j'aimerais que s'il y a une église qui dit « Ouais Seigneur, moi j'ai besoin d'être un témoin. J'ai à cœur de pouvoir que ma vie serve à ton royaume, au plan de ton royaume. » Simplement de vous mettre debout à votre place et il n'y a rien de magique ce matin, c'est plutôt dire « Mais oui Seigneur, je comprends que tu m'invites à peut-être détourner les regards de moi-même et à saisir plutôt la mission qui est là, la mission qui m'incombe, celle d'être un témoin entre tes mains. » Je crois que Dieu veut nous utiliser pour faire un pont entre les gens qui nous entourent et qui ne connaissent pas Christ, et qu'ils puissent le rencontrer. Et Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Nous sommes l'Église. L'Église, c'est pas ce lieu dans lequel on est. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Et ensemble, unis. Je prie que nos vies manifestent la grâce, matin, dont nous sommes au bénéfice. Que nous puissions être des canaux de la faveur de Dieu, qui veut déverser sa grâce sur ceux qui nous entourent. Que le Seigneur nous aide à identifier et à battre peut-être des barrières que nous-mêmes on a mis et qui empêchent ceux qui nous entourent de s'approcher de lui. Que je prie pour que nous puissions être cette génération qui dit « Seigneur, sers-toi de moi ». Seigneur, sers-toi de moi pour rejoindre mon collègue de travail, pour rejoindre mes amis, pour rejoindre ma famille. Afin que tu rencontres leur vie et l'échange. Jésus, tu es l'espoir du monde. Tu es l'espoir de ce monde sans espoir. Et le résultat ne nous incombe pas, mes amis. C'est Dieu qui touche les cœurs. Notre boulot à nous, c'est simplement de rendre témoignage avec un vocabulaire accessible, en nous intéressant aux gens et en partageant vraiment nos vies et ce que Dieu a fait dedans. Et après, c'est le job du Saint-Esprit. C'est plus le nôtre. Alors culpabilisons pas en disant « mais j'ai amené personne ». Sois juste un témoin. Sois un témoin là où Dieu te place. Et Dieu va servir de toi. Si on est dans cet état d'esprit, Dieu va nous donner l'occasion de le vivre. parce que le cœur de Dieu est que un maximum soit sauvé. Le désir de Dieu, c'est que les gens puissent arriver à la repentance, à ce changement de mentalité. Et ça passe aussi par nous. Nous plus Dieu. Et il y a des choses qui peuvent se produire. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Je crois qu'on a des directions claires dans lesquelles on veut marcher. Amen. Et c'est vraiment le cœur de l'épi de vouloir accueillir et de rejoindre les autres. C'est une bénédiction qu'on puisse vivre cette thématique sur l'accueil. Et je vous encourage à vivre ce qu'on prêche, ce qu'on partage. Et nous aussi, en tant que pasteur, on le vit, on cherche à le vivre et on veut le vivre au quotidien. On a des défis, hein. Amen. Mais on va les relever ensemble. Amen. Amen.